n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Avec Emmanuel Macron dans ce budget, ce sont toujours les mêmes qui vont payer.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
C'est l'heure de votre rendez-vous avec la vie politique en France. Voici Dimanche Politique.
Philippe Le Caplin.
Avec Loïc Bussière, ce que disent les uns et les autres, et nous décrypterons cette parole. Avec vous, Stéphane Attal, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes cofondateur de l'agence d'opinion Les Influenceurs et auteur de Influencer, c'est la communication d'aujourd'hui, un livre paru aux éditions Maxima. Le mouvement des Gilets jaunes a commencé par la fronde contre la hausse des taxes sur le prix de l'essence. Puis est venu le RIC, acronyme de Référendum d'Initiative Citoyenne. Et il en est question dans les réunions organisées dans le cadre du grand débat national et donc aussi dans les bureaux du pouvoir, dans la mesure où il permettrait peut-être de sortir de la crise. À tel point que le titre qui barre aujourd'hui toute la une du journal du dimanche est celui-ci. Macron, le référendum secret. Il serait organisé le 26 mai, c'est-à-dire le jour des élections européennes. Reste à savoir sur quoi il porterait. En tout cas, Loïc, cela fait déjà beaucoup, beaucoup réagir la classe politique.
Oui, même si pour le rien n'est acté. L'opposition n'attend en tout cas ni une officialisation, ni un démenti de l'Élysée pour dire ce qu'elle pense de cette initiative. Et dans le vocabulaire de Marine Le Pen, eh bien, cela donne ceci.
Tout ça, c'est totalement bidon. Il va recycler, encore une fois, sa modification constitutionnelle par l'intermédiaire de ce référendum. Donc il va demander aux Français si les Français sont d'accord avec ce qu'il avait déjà proposé.
Le référendum, c'est bidon. C'est le constat établi par Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National, qui n'est pas la seule, ceci dit, à se montrer sceptique sur cette question. Écoutez Noël Mamère, ancien maire de Bègles et ex-candidat à la présidentielle pour Europe Écologie Les Verts.
Je pense qu'en effet, le président de la République est en train de présenter un joli petit leurre qui s'appelle le référendum à ce qu'on appelle les Gilets jaunes et qui manifestent de manière continue. C'est le 12e samedi. Donc avec la perspective du référendum, certains se disent enfin il nous a compris. Je ne suis pas sûr que le président de la République ait pris la mesure de la profondeur de l'exigence démocratique et sociale qui est exprimée par les Gilets jaunes et bien au-delà.
Ouais, Noël, ma mère pas convaincue, à loin s'en faut, par l'idée d'une consultation qui viendrait clore donc ce grand débat national, pas plus que Laurent Wauquiez, pourtant sur une toute autre ligne politique, le président des Républicains, qui confiait ses doutes ce matin chez nos confrères à l'RTL d'Europe
1. Attention à ce que de ce grand débat n'accouche pas une souris. Attention à ce que l'issue de ce grand débat ne soit pas des sujets qui sont très coupés des préoccupations et des priorités des Français. Et attention à ne pas donner le sentiment qu'au fond, tout est déjà décidé.
Voilà, le président des Républicains, Laurent Wauquiez, ce matin, chez nos confrères d'Europe 1.
Stéphane Attal, le RIC, en termes d'affichage politique, cela permet de dire que l'on répond aux revendications des Gilets jaunes sans que cela coûte trop cher, à la différence d'une hausse des salaires ou du rétablissement de l'ISF. En fait, il dit oui aux Gilets jaunes à moindre frais.
En fait, en laissant fuiter le fait qu'il va peut-être organiser un référendum, il est en train de dire aux Gilets jaunes, je vous ai compris, mais c'est quand même moi encore le maître des horloges. C'est-à-dire, vous demandez le référendum d'initiative citoyenne, c'est très bien, moi je vais organiser un grand référendum. C'est quand même encore moi le patron, j'ai compris que vous voulez la parole, mais vous allez faire ça exactement quand je le dirai et comme je le voudrais.
On entendait Marine Le Pen dire qu'il allait recycler un certain nombre de choses. C'est vrai que ceux dont on parle dans ce référendum, on y viendra d'ailleurs tout à l'heure, figurent dans son programme électoral. Mais avant cela, Stéphane Attal, organiser un référendum le jour du scrutin européen, est-ce que vous diriez que c'est de la tactique ou de la stratégie ?
Un peu les deux. De la tactique parce que c'est faire venir les gens dans les urnes un jour où en général les gens n'y viennent pas. Il faut savoir que les européennes, c'est quand même le plus gros taux d'abstention de toutes les consultations électorales en France. Et c'est de la stratégie parce qu'en fait, il fait probablement l'impasse sur les européennes dont on prévoit un fiasco un peu partout dans la sphère politique et pour se concentrer sur les municipales qui ont lieu en mai ou en juin 2020.
Et puis là où les questions de ce référendum proposé aux Français lors de cette consultation pourraient notamment porter sur des sujets institutionnels comme la réduction du nombre de parlementaires, la reconnaissance du vote blanc ou la limitation du cumul des mandats dans le temps, Loïc.
Il y a effectivement le contenu de la consultation, mais avant cela, il y a la tenue de ce qui n'est pour l'instant qu'une hypothèse, une hypothèse que la ministre des Affaires européennes ne semble pas pressée de voir prendre corps. Écoutez Nathalie Loiseau.
En ce moment, nous avons le grand débat. Nous saurons ce que veulent les Français à l'issue de ce grand débat. Tout mélanger aujourd'hui, je pense que c'est semer de la confusion. C'est ce que font certains.
C'est ce que vous dites au président. C'est ce que vous dites au président qui parle lui-même de référendum.
Il n'exclut rien, mais il n'a pas pris sa décision. Et de toute façon, c'est lui qui la prendra.
Et Nathalie Loiseau au micro d'RTL. Alors, décision prise ou non, certains se sont déjà fait une religion, hein, surtout sur le contenu donc de ce fameux référendum. Des questions qui ne correspondraient pas aux attentes des Français, c'est ce qu'estime Éric Coquerel.
Imaginez qu'à un moment donné, un mouvement social se termine dans une espèce de grand sondage avec des questions fermées. Je crois que M. Macron comprend pas très bien dans quel état le pays. Est-ce qu'on pense réellement que c'est lui qui va déterminer les questions? Alors, ISF, on n'en parle pas. Il exclut l'ISF. La politique du gouvernement, on n'en parle pas. Mais simplement les questions que lui estime pouvoir poser aux Français, puis il répondrait ou non. Enfin, c'est, excusez-moi l'expression, mais c'est du foutage de gueule, quoi.
Voilà, Éric Coquerel, dubitatif, on le voit, on l'entend, en tout cas, sur là où les questions qui pourraient être posées. Du doute, également, chez Philippe Martinez, qui se dit toutefois prêt à aider le gouvernement en cas de panne d'inspiration.
Qu'il fasse un référendum pour demander s'il faut augmenter le SMIC, s'il faut remettre en place l'impôt sur la fortune, s'il faut développer les services publics.
Donc vous dites à Emmanuel Macron, chiche sur ce référendum.
Oui, mais on peut même lui l'aider à trouver les questions.
Voilà, Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT sur le plateau de France 3 à la mi-journée. Philippe Martinez, ironique, on l'entend sur cette question du référendum. On a entendu tout à l'heure Laurent Wauquiez, le patron des Républicains, lui aussi apporte de l'eau, son eau au moulin, en tout cas en affirmant qu'il faut intégrer au sujet la baisse de la dépense publique en transformant les économies réalisées en baisse d'impôts. Noël Mamère, lui, va au-delà. Référendum ou pas, le président doit agir.
De toute façon, le président de la République sera obligé de faire quelque chose, qu'il s'agisse d'un référendum, d'une dissolution de l'Assemblée nationale, d'un changement de Premier ministre. Je pense d'ailleurs que tout ça ne seront que des petites rustines. Il n'a pas été élu par les Français pour son programme, mais il a été élu pour faire face à Madame Le Pen. Donc, oui. Quand il nous dit « je continue mes réformes et je suis un réformateur et vous allez voir que ces réformes vont se poursuivre », une majorité de Français n'en veulent pas.
Alors pour ce référendum, il est évoqué la réduction du nombre de parlementaires, la reconnaissance du vote blanc, la limitation du cumul des mandats. Stéphane Attal, Emmanuel Macron finalement recycle de l'ancien car tout cela figure déjà dans son programme de candidat.
Oui, c'est juste un problème de timing. Il aurait fait ça en arrivant au pouvoir, on aurait dit « quel ». Nouveau monde, il nous prépare, il fait exactement ce qu'il dit, le peuple est aux commandes avec lui et il va vraiment réformer la France. Et là, en ayant perdu 20 mois, eh bien, il se retrouve comme acculé à devoir demander aux Français ce qu'ils veulent. Je trouve que d'un point de vue politique, alors c'est extrêmement dangereux, mais d'un point de vue communication, c'est surtout extrêmement fragile, parce que finalement, il laisse la parole à ses opposants qui, on vient de l'entendre, ne sont pas privés.
Alors, chaque fois qu'il y a un référendum, la question de savoir si ça ne tourne pas au plébiscite pour ou anti-Macron, ce sera à nouveau le piège.
50 ans après De Gaulle, pile, en 2019, on se retrouve avec une question, doit-il rester ou doit-il partir? S'il ne la pose pas, et il ne la posera pas, je pense que beaucoup d'autres la poseront pour lui.
Stéphane Attal, cofondateur de l'agence d'opinion Les Influenceurs. Demain, le président de la République sera dans l'Essonne. Emmanuel Macron rencontrera des élus et des responsables d'associations d'Île-de-France dans le cadre du grand débat.
Oui, ce sera un prélude à d'autres échanges également à l'agenda présidentiel pour cette semaine, puisque un rendez-vous avec les syndicats et le patronat est également prévu. Ce sera mercredi à l'Élysée. L'initiative est à souligner puisque le chef de l'État est régulièrement montré du doigt pour ne pas inclure les fameux corps intermédiaires aux discussions. Seul problème, le premier d'entre eux, la CGT, a décliné l'invitation. Écoutez les explications de Philippe Martinez.
Est-ce que les questions, elles sont pas claires de la part des Gilets jaunes et de la part de la CGT? On lui a écrit, on lui a parlé 3 fois, 4 fois. À chaque fois, la réponse, c'est on vous écoute et derrière, on fait ce qu'on avait prévu de faire.
Donc chaise vide?
Non, pas chaise vide. On a donné, on a essayé de discuter. Ils ne veulent pas discuter, donc on perd plus notre temps.
Voilà, Philippe Martinez, pour qui le dialogue, selon Emmanuel Macron, ne fonctionne qu'à sens unique. Un point de vue qu'Éric Coquerel étend, lui, au grand débat national, entamé il y a 2 semaines, mais avec un scénario déjà écrit, selon le député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis.
Le grand débat, attendez, excusez-moi, il réunit des gens pendant 3 heures, vous passez tous Emmanuel Macron, et au bout de ces 3 heures, il explique qu'il changera pas sa politique, et que c'est lui qui décidera de ce qu'il veut bien dire aux Français. Enfin, c'est tout sauf un grand débat, c'est une grande fermeture.
Éric Coquerel, le grand débat donc a déjà commencé, 4 actes, le spécialiste de la communication, vous êtes Stéphane Attal, a regardé bien sûr les prestations du chef de l'État, qui durent souvent plusieurs heures, en mode stand-up et en bras de chemise. De quelle manière vous observez cela?
Alors, d'abord, je le compare avec le point de bascule de la campagne électorale de 2017, lorsqu'il était à Amiens chez Whirlpool, où il a été un peu piégé par Marine Le Pen, rappelez-vous, et il s'est retrouvé en Facebook Live pendant 3 heures face à des salariés, face à des Français, et d'ailleurs face aussi à celui qui deviendra un député de la France Insoumise quelques semaines après. Mais c'est dans cet exercice-là qu'il est le meilleur. Il est en campagne. Il a une façon de parler, une façon de séduire qui est exceptionnelle dans le paysage politique français. Il a été élu sur cette capacité de séduction, cette capacité d'harangue des foules, mais pas d'harangue de façon tribunale, comme pouvait l'être un Jacques Chirac. Non, quand il est au contact, quand il est en proximité avec les Français, il est extrêmement efficace. Et ce grand débat n'est pas un grand débat. C'est une grande campagne, parce que un débat, faut discuter. Le débat, c'est l'outil du dialogue. Là, on assiste à quoi ? On assiste au retour d'Emmanuel Macron sur le terrain. Faudra jamais dire qu'il n'a pas écouté ce que les Français lui ont demandé.
Est-ce que vous diriez que c'est cette séduction qui explique que la cote de popularité du chef de l'État gagne 4 points dans le baromètre mensuel Harris Interactive ?
Bien sûr, bien sûr. Les Français ont cette capacité à changer d'opinion relativement rapidement, et quand ils voient qu'un Emmanuel Macron prend des risques, va sur le terrain, dans l'arène, parler avec les maires, ce n'est plus comme les Français à qui il a dit qu'il fallait traverser la rue. Il va chez les élus. Et en fait, en réalité, là, il est en train de préparer les municipales encore une fois. Il n'a pas de base électorale locale. S'il parvient à convaincre les maires qui verront eux-mêmes que leurs administrés sont satisfaits, puisque les sondages augmentent, il va gagner une base électorale locale qui pourra le positionner très favorablement pour 2022.
Politiquement d'ailleurs, les analystes d'Arras Interactive affirment que le sondage en question montre que le regain de popularité est dû au soutien des sympathisants des Républicains qui approuvent la gestion par chef de l'État de la crise des Gilets jaunes. Alors demain, le président de la République sera à Évry-Courcouronnes. C'est une commune de 70 000 habitants située à une trentaine de kilomètres au sud de Paris. C'est la première fois que le président se rend en banlieue dans le cadre de ce grand débat. Et il n'a pas choisi cette ville au hasard.
Ben c'est la ville de Manuel Valls. C'était son patron. Et c'est celui qui l'a tué politiquement au lendemain de son élection. C'est certainement pas un hasard. Je pense qu'il n'y a rien de hasardeux dans la politique, et notamment dans celle d'Emmanuel Macron. Il y a du symbole. Je vais chez celui qui m'a fait ministre de l'économie, mais je vais aussi chez celui que j'ai viré de la politique française. Donc je vais aller rencontrer, moi aussi, ses administrés. Alors ça, et il va se passer des choses.
Ça, ce sera demain. Et puis jeudi, le président de la République ira à la rencontre des jeunes qui ont jusqu'à présent largement boudé ces rencontres. C'est d'ailleurs pour cela que Édouard Philippe, cette semaine, a encouragé ces jeunes à participer à ce grand débat. Le Premier ministre estime que la jeunesse est un angle mort du grand débat et que ça va poser problème s'il n'y a pas cette tranche d'âge qui s'exprime. Je le redis, vous êtes un spécialiste de la communication, Stéphane Attal. Comment vous observez la manière dont les jeunes s'informent et font de la politique aujourd'hui?
Alors, il y a deux éléments dans votre question qui sont tous les deux très intéressants. La première chose, c'est que les jeunes, ils ne sont pas dans les mairies, ils sont sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron reste aussi classique dans sa communication? Pourquoi est-ce qu'il ne change pas, et pourquoi est-ce qu'il ne disrupte pas, pour employer un mot à la mode, et qu'il aille dans l'arène des réseaux sociaux, qu'il fasse un Facebook Live avec les jeunes, que ce Facebook Live soit diffusé? C'est ce qui permettra d'abord de faire passer le message, de séduire les jeunes, et probablement de les faire s'intéresser à la chose politique. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, s'ils sont un angle mort, c'est parce qu'ils en ont rien à faire de ce qui se dit, de ce qui se fait. Ils pensent que les combats sont déjà perdus pour eux.
C'est ça l'idée, c'est qu'ils n'ont pas d'espoir dans ces échanges, quelle qu'en soit la forme,
que ce soit numérique. Ils ne croient plus personne parce qu'ils sont informés en temps réel. Faut le savoir, il y a zéro recul. Donc la seule manière de changer leur opinion, c'est d'aller les voir directement. On a un outil formidable qui s'appelle les réseaux sociaux. Il n'est pas utilisé par un président de 40 ans. J'ai un vrai problème là-dessus de communication.
Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI.
Philippe Philippe Le Caplin.
Hier encore, comme tous les samedis depuis 12 semaines, il y avait des gilets jaunes dans les rues de France. Selon le ministère de l'Intérieur, 58 600 personnes ont défilé dans le pays contre 69 000 la semaine dernière. Des chiffres officiels contestés par les gilets jaunes. À Paris, 13 800 personnes ont participé au cortège selon le cabinet Occurrence, 10 500 selon la préfecture de police. Paris, où étaient mis en avant les gueules cassées, c'est-à-dire ces gens, une vingtaine, qui ont perdu un œil à cause d'un tir de balle de défense. Loïc Bussière.
Oui, avec en arrière-plan la polémique sur l'utilisation du LBD, le fameux lanceur de balles de défense, indispensable au maintien de l'ordre pour Christophe Castaner et pour le Conseil d'État, saisi de la question cette semaine par la CGT et la Ligue des droits de l'homme. Un LBD responsable, au contraire, de nombreuses et graves blessures, c'est ce qu'avancent de leur côté les Gilets jaunes, qui dénonçaient donc hier les violences policières pour leur 12e samedi de mobilisation. Mais quand les Gilets jaunes prennent le parti des victimes de LBD, le gouvernement, lui, se range du côté des forces de l'ordre, auxquelles il multiplie les marques de considération. Alors, on a entendu le ministre de l'Intérieur souligner leur sang-froid exceptionnel cette semaine. Sa collègue aux affaires européennes, Nathalie Loiseau, leur rend également hommage aujourd'hui.
Moi, ce que je souhaite, c'est d'une part qu'on rende hommage à des forces de l'ordre qui, depuis 12 week-ends, sont sur le pont, sont ultra mobilisées. Moi, j'ai rendu visite à des commissariats de police où j'ai vu des gens dont le mot d'ordre, c'était « nous voulons servir avec honneur ». Et je voudrais le dire aujourd'hui, et je voudrais vraiment leur rendre hommage.
Voilà, hommage aux forces de l'ordre pour Nathalie Loiseau sur l'antenne d'RTL aujourd'hui. Nathalie Loiseau qui, comme l'ensemble du gouvernement, choisit de ne pas évoquer les incidents liés au LBD et aux grenades de désencerclement. Dans l'opposition, en revanche, on ne s'embarrasse pas de pudeur sur le sujet, notamment au Rassemblement National. Sa présidente, Marine Le Pen, connaît le nom du responsable de l'escalade de violence à laquelle on assiste depuis le 17 novembre.
C'est la faute d'un Emmanuel Macron qui refuse de sortir de la crise par la voie institutionnelle. C'est lui qui jette les gilets jaunes contre les forces de l'ordre en ne répondant pas en réalité aux inquiétudes, aux revendications qui sont celles du peuple français. C'est lui aussi qui, par l'intermédiaire de son ministre, Monsieur Castaner, laisse ses désormais célèbres Black Blocs venir semer la perturbation, la violence dans les manifestations semaine après semaine.
Voilà, Emmanuel Macron, responsable des violences qui polluent les manifestations de gilets jaunes pour Marine Le Pen. Peine ici sur l'antenne de BFM. Autre voix de l'opposition, Éric Coquerel pour la France Insoumise, pointe lui aussi du doigt la responsabilité du gouvernement. Gouvernement qui devrait s'inspirer de l'histoire pour gérer la séquence politique que l'on traverse.
Celui qui a eu les propos les plus lucides là-dessus, c'est le préfet Grimaud en 68. Il disait, et pourtant les policiers étaient beaucoup moins équipés à l'époque, et les manifestants n'étaient pas plus pacifiques. Hein. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que si un de ces hommes tape un manifestant à terre ou arrêté, non seulement il se déshonore, mais il va produire le fait qu'il y aura 10 manifestants pour prendre la relève de ce jeune. Donc c'est, vous voyez bien que c'est une escalade terrible. On ne peut pas arrêter un mouvement social par la répression et des mesures autoritaires, à moins de ne plus être en état de droit. Et moi, je commence à m'inquiéter.
Stéphane Attal, cofondateur de l'agence d'opinion Les Influenceurs. Moins de monde dans la rue, mais du monde encore et toujours, malgré le temps qui passe, presque 3 mois, malgré le grand débat national.
Mais je trouve que 50 000 personnes 3 mois après, c'est beaucoup. C'est beaucoup, ça se structure, ça s'infiltre, ça influence, et même si ça fait 0,1% de la population française, on pourrait imaginer que c'est pas beaucoup en réalité, mais c'est encore 50 000 personnes 3 mois après. Je pense que c'est comme ça qu'il faut prendre le calcul, et ceux qui restent sont probablement les plus radicaux. On voit bien que ce mouvement est désormais incarné, c'est probablement le danger et l'opportunité qui le guette. L'opportunité, c'est d'avoir des gens qui sont capables de porter leur parole et d'avoir une audience médiatique. C'est aux médias de décider s'ils veulent leur donner la parole ou pas. Mais le danger, c'est qu'aussi ces gens-là ne représentent finalement plus qu'eux-mêmes et que les gilets jaunes, la base, se sentent un petit peu floués. On est à un carrefour de cette crise.
Incarné par des gens comme comme Éric Drouet, comme Jérôme Rodriguez, comme Jacqueline Mourot, dont certains se lancent dans les élections européennes.
Les élections européennes, mais il y a un point commun par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tous ces gens-là sont plus qu'actifs sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que le débat, il se porte là où le peuple peut parler, et non pas dans les mairies. C'est là où il y a encore ce décalage de communication et ce déficit de confiance qui reste encore très très fort.
Merci Stéphane Attal pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle Influencer, c'est la communication d'aujourd'hui aux éditions Maxima. La politique encore sur Radio France Internationale. Ce sera demain matin Emmanuel Morel, le fondateur de la gauche républicaine et socialiste. Dans quelques instants sur RFI, l'essentiel de l'actualité du monde.